Vous êtes sur RTL.
Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir pour 2 heures d'infos avec vous au 32-10. Ce soir à la une, un contrat de 16 milliards d'euros, 5000 emplois créés, Emmanuel Macron, super VRP dans le Golfe. La France vend 80 rafales aux Émirats, l'Elysée salue le contrat du siècle, mais pendant ce temps-là, les ONG et la gauche s'insurgent. Et si on parlait des droits de l'homme, les autres titres de l'actualité maintenant, à suivre dans votre journal. Bonsoir Marion Calais.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. La Belgique avance d'une semaine les vacances de Noël pour cause de Covid. La sanction contre Didier Raoult, accusé de charlatanisme, ses pairs lui ont infligé aujourd'hui un blâme.
La cinquième vague Didier Raoult, nous en discuterons avec notre invité de 18h15, le numéro 2 des hôpitaux marseillais, Jean-Luc Jouve.
Dans ce journal aussi, le déplacement de Marine Le Pen en Pologne. Et puis foie gras, champagne et Brillat Savarin truffé pour DSDF à Reims. Les courses et dans le Quintet Plus en nocturne à Vincennes. Dominique Cordier vous recommande de jouer le 4, le 3, le 5, le 2, le 12, le 10 et l'As.
Dans un quart d'heure, la brigade RTL avec cette question. Pourquoi Cédric Jubilard reste en prison? Après 18h30, laissez-vous tenter dernière. On va écouter le dernier album d'Angèle qui est sorti par surprise aujourd'hui. 18h40, on refait nos régions. Vos 20 minutes positives près de chez vous, comme chaque vendredi. Avec Marion, on va vous emmener près de Toulon avec une étudiante au grand cœur. À Lyon, sur les pentes du téléphérique de la Discorde. Et puis en Alsace pour déguster des biscuits de Noël. 19h15, ils refont la France. Amandine Bégaud avec sa bande de journalistes étrangers. Bonsoir Amandine.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Quel est le menu?
On reviendra bien sûr sur la primaire des Républicains. Est-ce que les étrangers connaissent Valérie Pécresse et Éric Ciotti? Qu'en disent-ils aussi? Puis on parlera du chic français. Rien à voir. Mythe ou réalité?
Bah non, Éric Ciotti n'est pas chic, c'est ça que vous voulez dire?
J'ai pas du tout dit ça. Mais vous verrez.
On verra. Très bien.
Ce sera à 19h15.
Ce sera à 19h15. Ils refont la France. Et puis des points tout au long de l'émission sur le temps avec vous, Valérie Quintin. Bonsoir.
Bonsoir.
Dites-nous tout la tendance.
Eh ben, une dégradation arrive ce soir par le nord-ouest. En toute logique, elle va traverser le pays dans les prochaines 24 heures. Ça nous promet un petit peu de neige jusqu'en plaine au petit matin dans les régions de l'est.
On vous retrouve dans quelques minutes.
RTL Soir.
Le journal. Julien Cellier. Marion Calais.
Après la Grèce, après l'Égypte, après la Croatie, le Rafale s'exporte à nouveau, cette fois aux Émirats Arabes Unis.
Commande record de 80 appareils annoncés ce matin à l'occasion du déplacement d'Emmanuel Macron. Un déplacement que vous suivez pour RTL, Nerissa Emani. Un contrat à 16 milliards d'euros qui vient conclure de très longues négociations.
C'est l'aboutissement d'une dizaine d'années de négociations. À travers ce contrat historique, les Émirats Arabes Unis renouvellent leur confiance aux Français. De quoi donner le sourire à Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation, présent ici lors de la signature à l'Exposition Universelle de Dubaï.
Les astres s'alignent et les Émiriens ont décidé que c'était maintenant qu'il fallait passer à l'étape du futur avec ces 80 rafales.
La livraison de ces avions de chasse dernière génération est prévue pour début 2027, alors il va falloir accélérer la cadence dans l'usine de fabrication à Mérignac. Et pour cela, Dassault envisage de créer entre 4000 et 5000 emplois.
Le Rafale est entièrement produit en France. On va plus que doubler la chaîne de production du Rafale, donc ça représente des milliers d'emplois, non seulement chez Dassault et ses coopérants, Thalès et Safran, mais sur les 400 entreprises qui travaillent dans l'écosystème du Rafale. On a du travail avec ce contrat jusqu'en 2030.
Avec ce gros contrat, les Émirats Arabes Unis deviennent le premier pays étranger utilisateur des Rafales.
Nerissa Emani à Dubaï pour RTL.
Des années de production garanties donc pour Dassault et ses sous-traitants. Forcément, à Mérignac, où les Rafales sont assemblés, la nouvelle fait des heureux à l'image du maire socialiste Alain Andiani.
Le maire de Mérignac se réjouit pour notre pays, il se réjouit pour la métropole et il se réjouit évidemment pour sa ville. C'est pas un one shot. Une commande de 80 rafales, ça veut dire un plan de charge qui va aujourd'hui s'étaler sur une dizaine d'années. Et vous savez, il n'y a pas beaucoup de secteurs dans lesquels on peut être sûr de ce qui va se passer dans les 10 ans. Alors aujourd'hui, il y a 1200, 1300 personnes qui travaillent sur Mérignac. Donc là, si on arrive à sécuriser autant d'emplois sur 10 ans, évidemment, c'est pour nous une information très importante. Écoutez, franchement, on est dans une période un peu grise. Il y a beaucoup de nuages, il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'incertitudes. Et là, c'est quand même un rayon de soleil, il faut bien le dire.
Alain Andiani, le maire de Mérignac, avec Philippe Demaria pour RTL.
Cette commande critiquée en revanche par le candidat écologiste Yannick Jadot. La France nous fait honte quand elle arme des régimes autoritaires, a-t-il écrit sur Twitter. Pour l'ONG Human Rights Watch, le maintien de partenariats militaires douteux va rester comme une tache sur le bilan diplomatique d'Emmanuel Macron.
Et on évoquera cette question des droits de l'homme dans les dessous de l'actu dans moins d'une demi-heure sur RTL. Pour l'heure, 18h04, c'est la question du moment à travers toute l'Europe face à une nouvelle vague du Covid, à l'approche des fêtes de Noël. Est-ce qu'il faut renforcer les restrictions? Si rien n'est encore décidé en France, la Belgique, elle, a tranché.
Bonsoir Caroline N.
Bonsoir.
Vous êtes la correspondante de RTL à Bruxelles. Chez vous, le taux d'incidence est à plus de 2000, c'est-à-dire 6 fois plus élevé qu'en France. Et les autorités ont donc décidé d'agir, notamment en avançant les vacances de Noël.
Oui, ce point a fait l'objet de longues discussions entre les différents membres du gouvernement pour finalement aboutir à ce compromis. Les enfants de maternelle et de primaire seront un peu plus tôt en vacances, une semaine en avance. Pour les collèges et lycées, dès lundi, c'est le retour à des cours moitié à domicile, moitié à l'école. Le masque devient obligatoire dès l'âge de 6 ans au lieu de 10. Beaucoup de secteurs étaient inquiets ce matin avant l'annonce des mesures, mais la majorité est épargnée. Pas de fermeture des salles de sport, ni des restaurants et des bars. En revanche, pour les grands événements comme les concerts ou les matchs de foot, dès demain, ceux rassemblant plus de 4000 personnes ne peuvent plus avoir lieu. Et dès lundi, plus possible pour les salles d'avoir plus de 200 spectateurs. Les autorités se retrouvent le 20 décembre pour évaluer à nouveau la situation sanitaire. Les fêtes de fin d'année ne sont pas encore sauvées.
Caroline N à Bruxelles pour RTL.
En France, c'est lundi que le gouvernement va se pencher sur la situation sanitaire. Approche pragmatique, promet Emmanuel Macron.
Je souhaite qu'il puisse y avoir, je dirais au minimum tous les 15 jours, des conseils de défense comme ça s'est toujours passé. Ce sera le conseil de défense la semaine prochaine et donc on regardera l'évolution de la situation. On fera comme toujours avec pragmatisme, proportion et avec la même philosophie, une évaluation de la situation et des réponses à apporter. Je considère que ce qui a été décidé il y a maintenant près de 10 jours était les bonnes décisions à prendre et que la stratégie que nous avons nous permet aujourd'hui de résister. On voit bien qu'il y a cette cinquième vague qui est là. Mais il faut continuer de vacciner, de tenir les disciplines, de continuer à nous organiser.
Emmanuel Macron ce matin sur le Conseil de défense sanitaire prévu donc lundi.
De son côté, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a dit ce matin vouloir éviter les mesures de contrainte, assurant que la vaccination pour les enfants à risque à partir de 5 ans pourrait être ouverte dès la mi-décembre. Il était accusé d'avoir fait la promotion de l'hydroxychloroquine malgré l'absence de résultats prouvés. La chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins s'est prononcée aujourd'hui sur le cas Didier Raoult, affaire délocalisée à Bordeaux pour éviter les tensions. Denis Grand, bonjour, vous êtes l'un des correspondants de RTL en Nouvelle-Aquitaine. Didier Raoult écope donc d'un blâme, sanction placardée, mais pour l'instant sans explication, hein, Denis.
Oui, une simple feuille de format A4 derrière une vitre avec cette observation en 5 lettres. Blâme. Aucun commentaire pour étayer cette décision. Les explications viendront plus tard. Le professeur Raoult, qui avait une épée de Damoclès au-dessus de sa tête puisque la radiation avait été évoquée, il peut donc souffler, même si dans son entourage, personne ne parlait de véritable inquiétude face à cette décision attendue. Le Conseil de l'Ordre, qui a donc choisi la sanction juste après celle du simple avertissement, le scientifique marseillais était également passible d'une interdiction temporaire d'exercer. Didier Raoult, qui est à la retraite depuis le mois d'août dernier, n'était pas présent à Bordeaux, pas plus que ses soutiens cet après-midi. De toute façon, le 5 novembre dernier, en première audience, ici même, il avait déclaré n'être concerné en aucune façon par la moindre sanction prononcée par le Conseil de l'Ordre.
Denis Grandjou à Bordeaux pour RTL.
Et on demandera tout à l'heure au numéro 2 des hôpitaux marseillais, Jean-Luc Jouve, qui sera notre invité dans 7-8 minutes maintenant sur RTL, ce qu'il pense de cette sanction et ce qu'il pense aussi du rôle de Didier Raoult dans le retard vaccinal accumulé quelque peu à Marseille, où les hôpitaux commencent à se remplir et c'est l'une des villes les moins vaccinées de France. On aura l'occasion d'en discuter avec lui dans quelques instants. Pour l'heure, votre journal va se poursuivre juste après la pause. On va partir en Pologne où Marine Le Pen travaille sa stature internationale. À tout de suite.
Julien Cellier,
RTL Soir.
18h10, la suite de votre journal avec cette équation. Comment exister face au congrès LR demain et au premier meeting de campagne d'Éric Zemmour dimanche? Eh bien, Marine Le Pen espère avoir trouvé la solution. Ce n'est pas un paradoxe, elle a vraiment décidé de prendre le large.
Oui, et de la hauteur, à l'étranger, en Pologne, précisément pour un sommet européen avec 14 leaders populistes et eurosceptiques. Marie Mollet, vous suivez pour RTL la candidate du Rassemblement National qui joue donc la contre-programmation avec ce déplacement.
Oui, une contre-programmation en or qui tombe à pic, applaudit un élu RN. Quoi de mieux que cette escale en Pologne, pays en plein bras de fer avec l'Union européenne, pour camper la femme d'État. Aussitôt arrivée, elle goûte aux délices d'un cortège officiel. Solennité devant le monument en hommage aux victimes du ghetto de Varsovie, puis une flânerie dans le marché de Noël de la Place Royale. Bref, Marine Le Pen fait tout pour montrer qu'elle est loin, très loin des agitations politiques de ses concurrents. En clair, elle a beaucoup mieux à faire.
Si vous voulez, moi, il s'avère que je suis une présidente de mouvement, une candidate à la présidentielle qui a des alliés en Europe. Il faut avoir des visions communes, il faut porter des combats. Nous sommes considérés comme une force politique majeure, entendue à ce titre.
Et Marine Le Pen dînera ce soir avec le Premier ministre polonais, carton d'invitation fièrement partagé sur les réseaux sociaux, avant un rendez-vous demain avec tout le gratin des leaders populistes européens. Ça fait chic, glisse une huile du RN, et ça fait très mal à Éric Zemmour, qui lui a raté ses déplacements à l'étranger, à Londres et Genève.
Marie Mollet qui suit donc Marine Le Pen en Pologne pour RTL. Lui est à Chypre. Le pape François a dénoncé aujourd'hui la guerre de la haine et fustigé ceux qui empêchent les réfugiés d'entrer. Nous ne pouvons pas nous taire et regarder ailleurs, a estimé le souverain pontife.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Avec ce Noël festif en perspective pour des sans-abri à Reims, où le banquet de l'Assemblée Générale Annuelle de l'Association Viticole Champenoise a été annulé hier pour cause de Covid. 800 repas étaient prêts. Et pas question de gâcher pour le président de cette association, François Pierson.
Je me retrouvais avec 800 repas, presque préparés sur les bras, et on ne voulait pas gaspiller, surtout pas gaspiller. Du foie gras, de la canette avec des petits champignons, des girolles, des cèpes, un fromage aux truffes et puis un dessert à la mangue. Donc, on a fait appel à la Maraude à Reims, qui distribue des repas au SDF. Ils ont été très, très, très contents parce qu'on leur distribue un très beau repas qui va faire le Noël des SDF et nous, on ne gaspillera pas.
Pas de gaspillage et un peu de solidarité pour François Pierson avec Samuel Goldschmidt pour RTL.
Vive nos vignerons, merci beaucoup Marion, à tout à l'heure. Le temps, chère Valérie, qu'est-ce que ça va donner pour demain?
Eh bien, ça ne change pas en fait. On a encore une nouvelle dégradation qui arrive ce soir par le nord-ouest et qui va donc traverser le pays d'ouest en est dans les prochaines 24 heures. Ça va nous donner probablement un petit peu de neige demain matin jusqu'en plaine dans les régions de l'est et du massif central. Ensuite, la limite plus neige va remonter entre 1200 et 1400 mètres dans l'après-midi. À l'arrière, on peut espérer une petite éclaircie entre deux grains orageux, parfois d'un peu de grésille sur le nord et le nord-ouest. Et puis près de la Méditerranée aussi, ça va se dégrader avec des pluies assez fréquentes et des vents forts. Les températures demain matin seront comprises entre moins 2 et 10 degrés d'Aurillac jusqu'à Biarritz. Dans l'après-midi, comptez 6 à 17 degrés, 8 à Chambéry, 9 à Lille, 12 à Paris et Cahors et 16 à Nice.
Merci Valérie.
La brigade RTL Soir.
Et maintenant sur RTL, on va s'interroger. Pourquoi Cédric Jubilard reste en prison? Cette affaire, c'est un mystère. Deuxième audition du père de famille devant les juges aujourd'hui. Il est soupçonné d'avoir tué sa femme, Delphine, il y a un an près d'Albi, femme toujours introuvable. Depuis, Cédric Jubilard clame son innocence, mais il reste mis en examen et écroué. On va donc poser trois questions à la brigade RTL. Bonsoir Patrick Tégéraud.
Bonsoir Julien, bonjour à tous.
Alors, il n'y a pas de preuves accablantes aujourd'hui envers Cédric Jubilard, mais il y a une multitude d'indices, c'est ça?
Alors une multitude, peut-être pas, un grand nombre en tout cas. Ouais. D'abord, le témoignage de l'aîné de la famille, le petit Louis qui a 6 ans, il a dit au juge qu'il a entendu et vu ses parents se discuter. Il est sorti de sa chambre, il était bien après 22h30. Or, Cédric Jubilard affirme n'avoir plus revu son épouse après le coucher du petit, justement à 22h30.
Mais il n'y a pas que ce témoignage d'enfant.
Non, il y a des petits problèmes dans les prises de position de Cédric, peut-être même des mensonges. Alors pourquoi Cédric, par exemple, dit que son épouse sortait les chiens pratiquement tout le temps la nuit. C'est absolument faux. Personne ne l'a jamais vu faire ça. Pourquoi son téléphone portable tombe en panne très opportunément, pile poil au moment où, voilà, il aurait aimé ne pas être peut-être géolocalisé. Et puis il y a cette voiture, la voiture de Delphine, qui change de sens le soir. On l'aperçoit avec dans le sens de la pente, hein, le capot vers le haut. Et puis le lendemain, eh bien, les gendarmes la trouvent dans l'autre sens, le capot vers le bas. Manifestement, cette auto a bougé dans la nuit. Et puis il y a cet amant un petit peu mystérieux. La justice l'a entendu par trois fois, mais sans plus.
Et cette liaison justement de Delphine Jubilard avec son amant, les avocats de Cédric Jubilard, donc du suspect, s'en servent pour dire attention, il y a peut-être une autre piste à creuser.
Oui, car figurez-vous que ce 15 décembre, avant la soirée mystérieuse, avant la disparition de Delphine, il se passe deux événements dans la journée. À la banque, Delphine fait changer ses codes pour que Cédric ne surveille pas ses comptes, car elle fait des dépenses avec son amant. Et justement, elle échange des SMS avec lui, et la compagne de son amant découvre ainsi l'existence de Delphine, et entre aussi en contact avec elle par SMS. Elles échangent ainsi une vingtaine de messages, plutôt courtois, la tromper, expliquant à Delphine qu'elle va bientôt rentrer dans son département d'origine, la Réunion, et qu'elle doit donc désormais interrompre la liaison avec cet amant, car elle pourra la reprendre dès son départ. Et nos confrères de la Dépêche du Midi ont aussi révélé que cette femme avait échangé plus de 150 messages avec un personnage encore non identifié les 15 et 16 décembre, avant et après la disparition de Delphine Jubilard. Alors les avocats de la défense exigent désormais que les gendarmes s'occupent de ces étranges et très nombreux messages.
Le mystère Jubilard, l'éclairage de la brigade RTL. Merci beaucoup Patrick Tégéro. On va marquer une petite pause dans RTL Soir et puis ensuite on va accueillir notre invité. C'est le numéro 2 des hôpitaux marseillais, Jean-Luc Jouve. Il va réagir au blâme infligé, on en parlait à l'instant, à Didier Raoult aujourd'hui, et puis à la montée de la cinquième vague. Inquiétude et première déprogrammation, surtout dans les hôpitaux marseillais, c'est l'une des villes les moins vaccinées du pays. À tout de suite.
Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
Bonne fin de journée, bonne fin de semaine. Vous écoutez RTL et ce soir, une interrogation. Est-ce que les hôpitaux de Marseille vont tenir? La cinquième vague de Covid va-t-elle les engloutir? La ville est l'une des moins bien vaccinées de France. 50% des places en réanimation sont d'ores et déjà occupées à trois jours d'un nouveau conseil de défense sanitaire à l'Élysée. Et bien notre invité ce soir est Jean-Luc Jouve. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président de la commission médicale de la PHM des hôpitaux de Marseille. On va échanger dans un instant sur cette vague, sur vos craintes. Juste un mot avant toute chose de l'actualité toute chaude. Didier Raoult, le polémique infectiologue marseillais, a reçu un blâme de l'ordre des médecins cet après-midi pour sa promotion de la chloroquine. Est-ce qu'un blâme, c'est une sanction qui vous paraît suffisante, proportionnée?
Alors là, j'ai absolument pas à juger de ce qui est fait par l'ordre des médecins, qui est mon ordre. J'accepte tout à fait ce qu'ils en disent. C'est un jugement sur la forme. Après, il reste les questions de fond qui sont beaucoup plus techniques. Et ces questions techniques, elles sont gérées par des instances comme l'Agence du médicament, etc., qui sont, elles, des questions de fond. Donc, ce n'est pas la même chose.
Justement, Jean-Luc Jouve, puisqu'on parle de Didier Raoult, est-ce que de par ses prises de position, pour vous, il a une responsabilité aujourd'hui dans le faible taux de vaccination à Marseille, un faible taux qui expose vos hôpitaux en ce moment?
Oui, c'est le principal élément sur lequel je suis, pour ma part, en désaccord avec Didier Raoult. C'est qu'au mois de juillet, on a eu un retard à l'allumage dans la vaccination, et encore aujourd'hui dans certains quartiers, parce que justement, par des prises de position qui étaient réticentes au vaccin, ou qui n'encourageaient pas vivement au vaccin, ou qui émettaient des réserves vis-à-vis du vaccin, ça a souvent été interprété par beaucoup de gens comme le vaccin, ce n'est pas utile. Et là, on a pris du retard, notamment dans certains quartiers de Marseille, des quartiers les plus pauvres, où on a eu beaucoup de mal et on a toujours beaucoup de mal à rattraper notre retard vaccinal. Et là, dans ce sens, il porte une responsabilité dans la communication qu'il y a pu y avoir de l'IHU vis-à-vis de la vaccination.
Ça veut dire que certaines de ces personnes qui doutaient de la vaccination dans votre ville, aujourd'hui, vous les retrouvez là en ce moment, dans vos hôpitaux. Est-ce que vous faites face à une vague de non-vaccinés à l'hôpital en ce moment?
Actuellement, on fait face à une vague de non-vaccinés ou mal-vaccinés ou tardivement vaccinés. C'est dommageable parce que si on avait une couverture vaccinale qui était plus large, eh bien certainement qu'il y aurait moins de personnes et en réanimation et en hospitalisation conventionnelle. C'est ce qui fait que, quelque part, Lydia route a une responsabilité sur ce retard de vaccination parce que il a eu un discours qui était un discours qui n'est pas un discours de santé publique quand on a une pandémie, si vous voulez. C'est un discours de scientifique, c'est pas un discours de médecin, de bon docteur de santé publique.
Alors, venons-en maintenant à vos craintes face à cette cinquième vague. C'est vrai que les chiffres sont inquiétants. 50% des places en réanimation déjà occupées dans vos hôpitaux marseillais. On a quasiment 50 000 contaminations par jour en ce moment en France. On voit le taux d'incidence qui grimpe de manière verticale dans les Bouches-du-Rhône. Est-ce que vous redoutez une saturation de vos services dans les semaines qui viennent ?
Non, pour l'instant, on ne le redoute pas, on n'en est pas là. On a encore une marge importante en réanimation, en hospitalisation conventionnelle. Donc, de ce côté-là, c'est pas le souci. Notre souci, c'est que une fois de plus, l'hôpital se grippe, s'enraye. C'est-à-dire que on soit obligé de déprogrammer des interventions non Covid et de la médecine non Covid qu'il serait préférable de faire dans les meilleurs délais que l'on va différer à cause de l'épidémie. C'est ça notre problème à nous.
Quand vous parlez de déprogrammation concrètement, pour qui, pour quel malade, quel type de rendez-vous ?
Bien pour certains enfants ou adultes qui auraient besoin d'intervention sur la hanche, sur la colonne vertébrale et que l'on va différer de 3, 4, 5, 6 mois parce que le personnel est tout orienté sur le Covid. C'est parfois des interventions comme de simples endoscopies digestives parce qu'il y a un petit problème digestif qui vont être différés là aussi pour des raisons de personnel et qui vont faire qu'une tumeur qui aurait pu être prise à un petit niveau va être prise à un niveau plus élevé 6 mois après. Tous ces gestes-là qui font que forcément, on est en situation dégradée, c'est le terme médical, c'est une situation dégradée dans la prise en charge des patients.
Alors le gouvernement réunit lundi un nouveau conseil de défense sanitaire. On se demande si quelque chose va bouger ou non. Écoutez les mots d'Emmanuel Macron depuis les Émirats, c'était il y a quelques heures seulement, écoutez-le.
Je considère que ce qui a été décidé il y a maintenant près de 10 jours était les bonnes décisions à prendre et que la stratégie que nous avons nous permet aujourd'hui de résister. On voit bien qu'il y a cette cinquième vague qui est là, mais il faut continuer de vacciner, de tenir les disciplines, de continuer à nous organiser.
Quand on entend le président Jean-Luc Jouve, on se demande s'il y aura ou non lundi véritablement un tour de vis. Est-ce que pour vous un tour de vis est nécessaire aujourd'hui, de nouvelles restrictions, la réintroduction de jauges peut-être ?
Il n'est pas certain que ce soit là que se situe le problème. Et je crois que malheureusement, le président a raison sur le fait que la vraie arme que l'on a, c'est la vaccination. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on déplore qu'on ait un peu rattrapé le train vaccinal. Parce que pour le reste, il n'est pas certain que les mesures de confinement soient des mesures qui soient aussi intéressantes que de vacciner. Ce qui est dommage, par contre, c'est que on ait des hôpitaux dans un tel état de dégradation, et ça depuis des années, car le Covid arrivant là-dessus, c'est la goutte qui fait déborder le vase.
68% d'habitants seulement avec au moins une dose dans les Bouches-du-Rhône, c'est un taux qui est très faible comparé au reste du pays. Est-ce que dans ce contexte, le débat sur la vaccination obligatoire qui monte un petit peu partout en Europe, selon vous, il doit être ouvert ou quelque part la contrainte ne fonctionnera pas avec ce public que vous connaissez dans votre ville ?
Alors, ce public, on le connaît bien, on le connaît d'autant plus que même les équipes chirurgicales comme la mienne, on est allé dans les quartiers nord le week-end démarcher les gens pour les vacciner. Donc on fait cet effort d'aller vers les gens pour les vacciner. Il y a une forte réticence. Je pense que cette réticence, elle est en train de s'effriter parce que les gens voient très bien que on n'a plus qu'une seule arme contre la vaccination, l'obligation vaccinale. Pourquoi pas ? De toute façon, on va avoir une obligation vaccinale de fait qui va se faire parce que dans un proche avenir, on ne pourra plus faire grand-chose si on n'est pas vacciné.
Merci Jean-Luc Jouve d'avoir été ce soir notre invité. Vous, le président de la commission médicale des hôpitaux de Marseille, merci d'avoir été notre invité sur RTL.
Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.
Allez, une petite pause et on continue de vous accompagner dans RTL Soir avec vos dessous de l'actu, les dessous ce soir de la visite d'Emmanuel Macron dans le Golfe. Le président vend des rafales mais s'attire les foudres des ONG. Et puis dans Laissez-vous tenter dernière, Julia Molcou va nous faire découvrir le tout nouvel album d'Angèle, sorti ces dernières heures un peu à la surprise générale.
RTL
18h30
RTL Soir avec Julien Cellier.
Allez, avant toute chose, dans RTL Soir, on va refaire un petit point sur les titres de l'actualité, si vous le voulez bien, Marion Calais.
Face à la cinquième vague, la France s'interroge. Conseil de défense sanitaire lundi. La Belgique, elle sévit. Vacances de Noël avancées d'une semaine pour les écoles maternelles et primaires. Pas de rassemblement de plus de 200 personnes à partir de lundi. 80 rafales, 16 milliards d'euros de contrats. Commande historique des Émirats Arabes Unis annoncée ce matin à l'occasion du déplacement d'Emmanuel Macron. Et puis un blâme contre Didier Raoult pour charlatanisme. Décision aujourd'hui de la Chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins de Bordeaux.
Merci Marion. Le temps pour demain, chère Valérie.
Une de plus, une dégradation qui arrive ce soir par le nord-ouest et qui va traverser le pays dans les prochaines 24 heures. Ça va nous donner un petit peu de neige probablement jusqu'en plaine demain matin entre la Lorraine et le Massif central. Ensuite, la limite plus neige va remonter en montagne à 1200 mètres dans l'après-midi. À l'arrière, on peut espérer quelques petites éclaircies sur la façade ouest dans le courant de l'après-midi. Tout cela avec des températures qui vont remonter un peu. 8 degrés attendus à Chambéry, 9 à Lille et à Lyon, 12 à Paris, à Montauban, à Clermont-Ferrand et à Quiberon, 15 pour Marseille et Bastia.
Merci Valérie.
RTL Soir,
les dessous de l'actu.
Et dans les dessous de l'actu ce soir, les dessous du déplacement, alors lucratif mais polémique, d'Emmanuel Macron dans le Golfe. 80 rafales vendues aux Émirats Arabes Unis aujourd'hui, on vient d'en parler, arrivé au Qatar ce soir, puis en Arabie Saoudite demain. Trois pays pas forcément réputés pour leur respect des droits de l'homme, les ONG et la gauche s'insurgent. Bonsoir Bénédicte Tassard.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Les droits de l'homme, Emmanuel Macron content en parler d'ailleurs.
Ah, comme il le fait dans chacun de ses voyages, précise l'Élysée. Le président aborde la question des droits de l'homme lorsque c'est nécessaire.
Alors en termes de droits de l'homme, la visite la plus critiquée c'est celle en Arabie Saoudite.
Ah oui, comment serrer la main? Puis comment déjeuner demain avec le prince héritier Mohamed Ben Salman, le commanditaire plus que présumé de l'assassinat de Jamal Khashoggi, tué puis découpé en morceaux dans les locaux de l'ambassade d'Arabie Saoudite en Turquie? C'était il y a 3 ans. Écoutez la réponse du chef de l'État cet après-midi quand on lui pose la question pendant la première étape de son voyage dans le Golfe à Dubaï.
L'Arabie Saoudite a organisé le G20 il y a plus d'un an. Tous les leaders du G20 étaient là. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Je ne cautionne rien, je suis exigeant, nous continuons de dire. Ensuite, qui peut penser une seule seconde qu'on aide le Liban, qu'on préserve la paix et la stabilité au Moyen-Orient, qu'on œuvre, si on dit, on ne parle plus à l'Arabie Saoudite, le pays le plus peuplé et le plus important du Golfe. Donc ça ne veut pas dire que je cautionne, ça ne veut pas dire que j'oublie, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas des partenaires exigeants, ça veut juste dire que nous sommes une grande nation qui doit œuvrer dans le concert des nations, et c'est cela de tout temps.
Emmanuel Macron avec notre reporter Nerissa Emani.
Bénédicte, le Qatar, les Émirats sont aussi dans le viseur des ONG.
Oui, le Qatar où le président est attendu ce soir, le Qatar hôte de la Coupe du Monde de foot l'année prochaine, le Qatar accusé de la mort de milliers de travailleurs immigrés sur les chantiers de cet événement, le Qatar qui surexploite ses ouvriers, qui les empêche de changer d'employeur, qui ne leur donne aucun accès à la justice, même s'il faut le reconnaître, des efforts commencent enfin à être visibles sous la pression des ONG. Et puis les Émirats Arabes Unis, là où le contrat des Rafales vient d'être signé. Souvenez-vous de la fuite ratée de la fille de l'émir de Dubaï, Latifa, rattrapée parce que son portable était espionné grâce à Pegasus, le fameux logiciel israélien qui normalement ne doit pister que les terroristes et les malfrats. Les Émirats Arabes Unis, eux aussi, sont dans le collimateur des militants des droits de l'homme.
Les dessous de la visite d'Emmanuel Macron dans le Golfe. Merci Bénédicte Tassard.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu. Laissez-vous tenter, dernière.
18h34 minutes, tout autre chose maintenant. On a besoin d'une petite respiration parce que Bénédicte, parfois, elle nous plombe un peu le moral.
Oh,
je dis ça,
pauvre.
Elle est encore en studio, la pauvre. Laissez-vous tenter dernière. C'est le moment où la chouette bande de LVT vous donne des conseils justement pour vous aérer. Alors, des conseils ciné, des conseils lecture, des conseils musique. C'est le cas ce soir avec vous, Julia Molcou. Bonsoir.
Bonsoir, Julien. Bonsoir à tous.
Vendredi soir belge, puisque la chanteuse Angèle, qui fête aujourd'hui ses 26 ans, a surpris son public. Elle a sorti cette nuit son deuxième album, 95.
Soit une semaine avant la date annoncée. Alors évidemment, il n'en fallait pas plus pour mettre la toile en émoi. Mais ce nouvel album, que veut-il vraiment et de quoi parle-t-il? Bien, je vous propose qu'on en écoute un nouvel extrait. Angèle chante l'époque et son âge. L'époque, c'est quoi? Bah, c'est le confinement, la solitude, le monde qui ne va pas bien, etc. Et puis son âge, 26 ans, bah, c'est un âge d'angoisse, de première fois, les doutes, les potes et bien sûr, les chagrins d'amour.
ce soir dans un taxi, par une dispute sans queue ni tête, la buée et la pluie se reflète dans tes yeux fâchés, si tu disparais demain.
L'album est plutôt pop, mais Angèle a quand même glissé ici ou là quelques jolis moments d'émotion, ici avec le titre Taxi ou encore Les mots justes, la 11e piste de l'album.
Est-ce que c'est toujours aussi bien que par rapport à Brawl, son premier album?
C'est bien. C'est écrit, c'est produit, c'est pas bâclé. On sent immédiatement une vraie sincérité dans ce qu'elle chante. On comprend qu'elle a été éreintée par les 3 dernières années et c'est normal, elle a eu un succès incroyable et mérité. Elle a eu une folle tournée, elle a découvert la célébrité, la vie privée jetée un peu en pâture et puis l'arrêt brutal de la planète. Tout cela l'a bousculée, elle l'a raconté dans le documentaire qui est visionnable sur Netflix et elle le raconte dans ce deuxième album 95. Alors oui, c'est sincère et ça se sent. Mais c'est un peu premier degré pour moi. Et on retrouve pas l'humour qu'elle a. Parce qu'en fait, si vous suivez Angèle sur les réseaux sociaux...
Elle est très drôle.
Cette fille est très, extrêmement très drôle. En plus d'être talentueuse, d'être belle, etc. Elle est hyper drôle. Et justement, dans son premier album, elle avait mis de l'humour. Elle avait mis de l'autodérision. Il y avait un pas de côté. Là, il n'y a pas. Ça manque un peu. Moi, j'avais envie d'un petit peu plus parce que j'adore cette fille. Mais le mieux, de toute façon, c'est encore que vous vous fassiez votre avis. 95 est disponible sur toutes les plateformes.
Allez, jetez une oreille et puis envoyez tous vos retours à Julia Molcou.
Ouais, elle mais les gentil attend. Les retours,
mais
gentil.
Oui, mais
hein.
Toujours gentil, on est plein de bienveillance dans cette émission. On vous retrouve demain, Julia ?
Demain matin, 6h, 9h15 avec Stéphane
bonheur,
Carpentier.
De bonne humeur avec Stéphane Carpentier et toute la bande des matinales au week-end. Merci beaucoup, Julia.
Bon week-end.
À demain sur RTL. On marque une petite pause, ensuite RTL Soir va continuer. On va défaire le monde comme chaque vendredi. Vos 20 minutes d'actu près de chez vous, d'actu positive. On va notamment, dans un instant, aller faire un petit tour du côté de Toulon à la rencontre d'une étudiante au Grand Cœur, on va vous emmener à Lyon sur les pentes du téléphérique de la Discorde. Et puis on va aller en Alsace parce que c'est bientôt Noël et on a vraiment envie de manger des biscuits.
On refait nos régions, c'est dans un instant sur RTL. Est faite pour vous. Sous-vêtements, t-shirts, chaussures, pulls, jeans, doudounes. Cet hiver, adoptez-vous aussi le style même pas froid. Et moquez-vous du prix. Jusqu'au 9 décembre, profitez de moins 30% sur votre article préféré en boutique et sur damar.fr. Damar, le confort d'être vraiment moi. Conditions en boutique et sur damar.fr. Juste.